Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, une place pour chacun.
Bonjour à tous. On est un peu en marche accélérée hein, ce matin. Hein. Voilà, on a changé un peu le programme parce qu'il y a un programme particulier aussi. Hein. Alors je vous propose, nous allons brièvement ouvrir un passage de la Bible, lire et lui apporter un petit commentaire dans le livre de Josué. Voilà, Josué, au chapitre 18, hein, s'il vous plaît. Alors, Josué, chapitre 18, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Et ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad et Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Voilà, que Dieu nous bénisse. Le Seigneur m'a conduit à, dans le cadre de notre assemblée générale aujourd'hui, eh bien, de considérer, de prendre en compte, finalement, la place de chacun au sein de son peuple, dans le sein du corps de Christ. Et je le répète, vous l'avez souvent entendu dire, c'est que nous sommes sauvés, c'est vrai, pour notre salut, mais nous sommes sauvés aussi pour servir le Seigneur. Et personne ne peut dire que Dieu l'a oublié dans la distribution. Nous nous oublions peut-être que Dieu nous a donné une part, une portion, qui est tout à fait spécifique à notre vie, à notre tempérament, à notre caractère, qui correspond finalement eh bien, à ce que nous sommes, ce pourquoi Dieu nous a fait. Et après, bien sûr, il nous donne et nous appelle à eh bien, gérer les talents, les dons, les mines, enfin tout ce que nous connaissons et qui nous est décrit dans la parole de Dieu. Une place pour chacun. Et vous savez que cela, ça implique l'avenir de l'Église. Parce que quand on ne prend pas conscience qu'il y a une place pour chacun, eh bien, il y a nécessairement, nous pourrions dire, un délitement avec le temps. Ou alors, tout simplement, ça ne repose que sur quelques personnes ou sur une personne. Et vous savez ce que Dieu a dit à Moïse, hein, c'est trop lourd et le peuple, tu ne peux pas porter sur tes épaules le peuple entier. Et ce n'est pas bon, d'ailleurs, qu'il y ait finalement eh bien, ce genre de situation, Dieu veut employer les uns et les autres. Israël reçoit cet ordre que je voudrais lire et relire dans le livre des Nombres, où il est dit ceci au chapitre 33, le verset 53 à 58, il est dit cette parole. C'est Dieu qui dit ça à Israël. « Vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. » C'est ce que Josué a fait là, il y a un instant. « À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort, vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons sur vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Et il arrivera que je vous traiterai comme j'ai résolu de les traiter. Ça, c'est un terrible retour en arrière, parce que finalement, Dieu nous a promis la bénédiction. Et il faut bien que nous comprenions, qu'Israël comprenne, qu'en défaut, finalement, de prendre conscience des réalités et des plans, des projets de Dieu, eh bien, c'est le contraire qui va se produire, que d'une bénédiction, il va en arriver quelque chose qui va être bien précisément l'inverse. Avec Josué, cet homme que nous connaissons, successeur de Moïse, la conquête de Canaan est entreprise. Alors, il y a déjà des choses qui sont faites. À l'Orient, on l'a lu, à l'Orient du Jourdain, il y a 3 tribus qui ont trouvé leur place. À l'Occident, les choses sont déjà déterminées pour 2 tribus. Il y a naturellement une part qui est échue à Juda et puis à Joseph. Joseph qui se compose de 2 tribus à lui tout seul. Une part pour les uns et les autres, mais il reste la plus grande partie, la majorité des tribus d'Israël, eh bien, qui n'ont pas de place. Et nous voyons, et nous l'avons lu il y a un instant, que dans ce qui nous est présenté, la plus grande partie, eh bien là, se trouve déconcertée. 5 sont déjà en place, 7, ça fait 12, eh bien, sont en attente. Et pourtant, il nous est dit que le pays est soumis et qu'il faut se l'approprier, tout simplement. C'est-à-dire, ces 7 tribus sont encore à entrer dans leur héritage, l'héritage qui est promis par Dieu. Et vous avez remarqué, je répète à dessein, le pays était soumis devant eux. C'est une façon d'expliquer la mesure prise par Josué d'envoyer des espions pour explorer le pays, avant même sa réalisation. C'est-à-dire que il va falloir que ces hommes mandatés par Josué soient remplis de foi, parce que visiblement, géographiquement, dans les faits, il y a encore des Cananéens, il y a encore les ennemis, il y a encore tout cela, mais Dieu dit en avance, c'est déjà fait. C'est comme s'ils étaient déjà soumis. C'est comme s'ils étaient déjà conquis, le pays est conquis, alors maintenant il faut avancer. C'est un peu ce qui nous ramène nous-mêmes à la situation qui est celle de l'Église, qui est celle de chaque chrétien, où, quelque part, nous avons à rentrer dans un territoire occupé par l'ennemi, on le sait. Le monde gît dans le malin, hein, je le rappelle. On sait qu'il y a des difficultés, des réalités de toutes parts qui peuvent éventuellement nous poser des questions, des problèmes, et nous effrayer. Mais une chose qui doit être le propre au fond de notre cœur, c'est que nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec un Dieu qui n'est pas derrière nous, mais il est devant nous. Et là où nous posons la plante de nos pieds, eh bien c'est fait. Ce sont des victoires éventuellement à caractère d'évangélisation, à caractère spirituel, de combat et de lutte spirituelle. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Et tout ce que vous délirez d'un côté sera délié de l'autre, parce que c'est finalement, eh bien, c'est une balance, c'est un équilibre. Et tout ce que nous avons besoin, que ce soit la guérison divine, que ce soit les difficultés que nous avons pour nous personnellement, mais tout est déjà conquis d'avance. Ou alors, à ce moment-là, on annule complètement et on fait disparaître la crucifixion de Jésus et sa résurrection. On garde une partie de la Bible, du Nouveau Testament, en disant, bon, Jésus est un homme de bien, il a fait du bien, il a ceci, cela, il a fait des discours extraordinaires. Mais l'essentiel, c'est quand même de savoir que la clé de la victoire a été prise à Golgotha et que même au cœur de la mort, celle-ci a été complètement renversée et vaincue. Où est notre foi dans cette affaire? Où est notre position? Eh bien, pour Josué, c'était pareil. Josué leur dit, voilà, eh bien, moi, je vais vous envoyer. Et moi, je voudrais vous dire de la part de Dieu que le pays, il est déjà conquis, il est déjà acquis. Alors, on le croit ou on ne le croit pas? On se dit, mais qu'est-ce que je veux faire à ce moment-là? On y va avec la foi, pas avec la témérité. On y va avec la foi ou on y va avec la peur. On croit que Dieu est avec nous ou il n'est pas là. Et s'il n'est pas là, c'est qu'il n'a pas parlé. Nous nous sommes mis des histoires dans la tête. Et nous nous sommes fait, excusez-moi, mais du cinéma. Alors, c'est une position de foi. Et c'est pourquoi Josué, donc, eh bien, va véritablement les stimuler dans cette situation. Et parce que Dieu a décrété la victoire. Quand Dieu dit, tu es guéri, tu l'es ou tu ne l'es pas? Tu as la victoire sur tes difficultés, tes problèmes et tout ce que tu peux rencontrer. Tu l'es ou tu ne l'es pas? Dans toutes sortes de situations, bien sûr, il y a parfois un temps d'attente qui sert d'école et où nous apprenons beaucoup de choses. Et quand Dieu nous fait passer par l'école avant l'exaucement, même si nous devons patienter, c'est que la victoire qu'il va nous donner, nous ne voulons pas nous la laisser voler. Et il sait très bien que si nous ne sommes pas affermis, il y en a un qui va venir et qui va nous ravir cette victoire de Dieu et on ne comprendra rien. Donc Dieu fait les choses, mais solidement. Il les fait dans le temps. Ça, ce n'est pas forcément notre, comme l'on dit, notre tasse de thé d'attendre. Hein, on aime bien le boire, le thé, quand il est chaud. Enfin, pour ceux qui boivent du thé. Tout le monde n'en boit pas. Alors, le secret de la victoire, finalement, c'est tout simplement le croire, puis agir. Parce que ça ne sert à rien de dire « j'ai la foi ». Ça ne sert à rien de prononcer et de répéter les promesses de Dieu et tout ce que nous connaissons dans la Bible. Si quelque part, il n'y a pas, eh bien là, de notre part, non pas seulement une intention ou une bonne disposition, mais une action. Agir, eh bien, c'est la concrétisation de la foi qui est suivie de l'obéissance. Je reste soit en stationnement, je recule ou j'avance. Alors Josué est celui qui a déclaré devant tous cette parole, et là encore, je vais vous conduire dans le chapitre 24 de Josué, il a déclaré cette parole, parce que moi je pense qu'elle est tout à fait évidente, qui montre la détermination du croyant, de l'enfant de Dieu. 24, 14 et 15, il est dit ceci. Et au lieu d'avoir la crainte des choses, la crainte des hommes, la crainte de tout ce qui nous environne, il est dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel. Ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, mais c'est ce saint respect qu'il est le Tout-Puissant. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et vous savez, quelquefois, on sert beaucoup plus la cause de nos craintes, de nos peurs, de nos analyses, de nos déductions et de tout ce qui se passe dans notre tête. Ce sont des faux dieux, tout cela, que nous servons l'Éternel. Parce que l'Éternel est un Dieu de paix et de repos. Et il nous fait avancer sûrement. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si nous trouvons mieux que c'est plus intéressant de nous tourmenter, de nous effrayer, de passer nos nuits et nos jours à cogiter je ne sais quel trouble et autre chose qui fait l'affaire de notre ennemi, alors, eh bien, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit restez dans notre situation malheureuse, dans notre situation de tourment et de cauchemar, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi, dira-t-il, moi, et vous connaissez, hein, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand on est chrétien, il faut être déterminé. On ne peut pas avancer si véritablement, eh bien, nous ne sommes pas affirmés, déterminés, parce que tout dans notre monde, et tout dans quelquefois notre tempérament, ça dépend des caractères, mais tout est là pour nous dire, eh bien, recule un petit peu, hein. Recule et réfléchis pendant que tu réfléchis, rien ne se fait. Parce que la foi, ce n'est pas ça, la foi, elle est ici. Ça, c'est quand même une autre disposition. Combien l'homme est lent à réagir à ce que Dieu attend de lui. Vous savez qu'on perd du temps. Moi, je perds du temps quelquefois avec moi-même. Je me dis, mais quelquefois, on pourrait avancer non pas plus vite, mais mieux et en qualité. Alors certains ont choisi, à défaut de la qualité, ils ont choisi la quantité. Mais quand on va trop vite, on ne voit pas le paysage. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pourquoi le verset 3 nous dit ceci dans notre passage, et ça sera la clé. Jésus dit aux... Josué, remarque, c'est la même chose, Jésus et Josué, c'est le même mot. Hein. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Vous avez remarqué ce qu'il dit? Il vous l'a donné, vous ne l'avez pas entre les mains, mais il vous l'a donné. Moi, si je vous fais une promesse que je vais vous faire un cadeau, enfin, autant que je veux véritablement vous faire un cadeau, même si je ne vous le donne pas aujourd'hui, je vous ai dit que je vous ferai un cadeau. Ben, je veux le faire, mais vous ne l'avez pas encore. Et en attendant, vous me faites confiance. Quand est-ce qu'il va m'apporter son cadeau? Eh oui, et vous ne savez pas quel cadeau je vais vous faire. C'est justement la surprise. Et ça, je crois que c'est le problème d'hier et d'aujourd'hui dans les églises, dans nos communautés, dans nos vies, le problème de la négligence. Jusqu'à quand négligerez-vous? Ça semble quelque chose de mineur, la négligence. J'ai négligé de faire ceci. Dans certaines choses indifférentes de la vie, ça ne porte pas à conséquence. Mais dans d'autres, je peux vous dire que quand on néglige de fermer le gaz le soir, quand on néglige de prendre de l'essence et qu'on a un grand voyage à faire, quand on néglige de payer ses impôts, quand on néglige de faire des choses importantes, il y aura toujours un moment ou un autre des retours. Hein. Ouais. Et quant aux choses spirituelles, je pense que nous ne devons pas être des hommes et des femmes négligents. Il y a deux mots qui reviennent, et je voudrais en parler ce matin. C'est la consécration à Dieu et la consécration, c'est vrai, dans l'Église. D'ailleurs, si nous sommes consacrés au Seigneur, l'un va avec l'autre. On le fait pour le Seigneur, mais le service s'exprime dans l'Église. La consécration et la disponibilité. On est effrayé de voir aujourd'hui, dans notre temps, où il y a cette période que l'on a appelée le temps libre, où les gens sont de moins en moins disponibles. C'est vrai, hein ? Ouais. Moins en moins disponibles. Où les enfants de Dieu sont de moins en moins, disponibles pour le Seigneur, où il y a quand même des questions que nous pouvons nous poser et servir le Seigneur en priorité, surtout et partout. Qu'est-ce qui se passe? On a connu dans nos milieux des temps de réveil fulgurants. On ne peut pas dire le mot, on ne peut pas dire autre chose. Et on s'aperçoit que dans les temps qui sont les nôtres, il y a comme sur les montagnes, vous savez, une érosion. La montagne s'abaisse de plus en plus. Ça commence à tomber un petit peu dans les torrents, et puis ensuite ça s'en va, ça se répand, ça se perd dans la mer, dans l'immensité. Et on pourrait parler de zèle, on pourrait parler de disponibilité, on pourrait parler de consécration. Et je dis que la volatilité, elle n'est pas seulement dans les cours de la bourse, hein, parce que c'est un mot que l'on connaît aujourd'hui. Volatilité des actions et des cours de la bourse. Mais la volatilité, elle se remarque plus que peut-être auparavant, eh bien aussi dans la vie des enfants de Dieu. Donc, la première cause est la négligence. Je le disais, je ne suis pas là pour juger, vous connaissez. Mais il y a aussi dans le cœur des uns et des autres, des chrétiens fidèles, une tristesse et une peine de voir l'évaporation. Il faut bien le constater. Et je crois que tout cela nous amène à une réflexion, dans ce sens que ce n'est pas le royaume et la justice avant toute chose, mais quelquefois c'est « Seigneur, s'il en reste ». Et ça, c'est mettre quand même la charrue devant les bœufs. Parce que nous avons tous vécu, les uns et les autres, plus ou moins et quelquefois plus pour certains, par la foi, en nous attendant jour après jour à la grâce de Dieu et au soutien de Dieu, que pour le reste. Et là, nous avons vu que Dieu est fidèle, sans nous laisser manquer d'aucune chose. Et nous savons de quoi nous parlons. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, on est attristé, on se dit, mais Dieu, s'il en reste, Seigneur, que vais-je te donner ? Non pas la part congrue, mais, si véritablement il y a encore quelque chose pour toi. Et vous savez, Paul s'en plaignait déjà. Alors vous savez, on ne va pas en faire une affaire d'État pour notre temps, hein, parce que l'Église, on peut dire que c'est vraiment la Pentecôte, hein, il y a des pentes et des côtes. Hein. Vous allez le voir dans les graphiques, là, c'est des... Comment on appelle ça? Vous ne savez pas comment ça s'appelle? Hein, les croquis, les schémas là, de comptabilité. Enfin bon, peu importe. Hein. Normalement, je suis le comptable aujourd'hui, alors je ne sais pas comment je vais vous expliquer les choses. Hein. Paul le disait. Et il disait quoi? Et pourtant, on pourrait dire que c'était dans le souffle d'Église première. Et qu'est-ce qu'il disait? Il le regrettait lui aussi. Au chapitre 2 et au verset 4, il dit ceci, le brave Paul, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et au verset 20-21, il poursuit, « Car je n'ai personne ici pour partager mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Il pleurait, Paul. Il était seul pour faire l'œuvre. Remarquez, ça peut nous consoler parce qu'il était peut-être seul ou très peu avec très peu de personnes. C'est venu quand même jusqu'à nous. Hein. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Et ne pensons pas qu'avec tout seul, on va suffire à tout. Hein. Mais néanmoins, on a besoin d'être ensemble. Notre temps est celui de la dispersion au sein des églises et du service. Et la cause... en quelque sorte, a été diagnostiqué ainsi dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre de la terminaison, le livre de la fin, le livre des églises mises en évidence, soit pour voir leurs qualités ou voir également leurs défauts. Et dans l'Apocalypse, chapitre 2 et au verset 4, il nous est quand même dit cette parole. Voilà, Dieu dit, c'est l'Esprit qui dit ici, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà le problème. S'il n'y a pas le feu, la flamme, la ferveur, l'ardeur du premier amour, mais qu'est-ce qui va rester? Une église bien sage, établie, voire dans certains cas, parce que ça s'est fait, je ne parle pas pour ici, mais somnolente et ronronnante, où on a tellement établi de choses que finalement il ne faut surtout pas passer les barrières qui ont été instituées humainement parlant. Et il y a beaucoup de communautés, c'est comme ça, attention, hein. Tu as abandonné le premier amour. Vous savez, quand on aime pour la première fois, messieurs, puis mesdemoiselles, enfin, je ne pourrais pas parler à votre place, mais nous, les messieurs, on peut le dire, ça bouge hein, dans le cœur. Hein, c'est une explosion, c'est une révolution, c'est merveilleux. Non, mais c'est vrai. Premier amour, mais enfin, après, il faut qu'il continue, hein, parce que ça, c'est le début. Être amoureux est une chose, et vouloir aimer après, c'est autre chose. Ça, c'est une explication. Le feu qui s'éteint peu à peu. Ou encore... toujours dans Apocalypse, chapitre 4 et au verset 14, il nous a dit aussi quelque chose qui est caractéristique peut-être d'un ralentissement ou un affaiblissement. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balaam de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, etc. etc. C'est la curiosité des nouveautés défendues et dangereuses. Quelquefois, dans les églises, on s'ennuie. Et on se dit, je voudrais bien voir ailleurs, parce qu'on me dit qu'il y a ceci, il y a cela. Il y a du croustillant, il y a du piquant, il y a du piment. Et on se dit, mais ça serait bien d'en mettre un peu dans notre plat. Hein. Nos mets et nos repas spirituels. Alors, à chacun de voir. Hein. Mais l'Église était reprise. Hein. C'était l'Église de Pergame en disant, mais qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs ? Pour ta stabilité, pour ton enracinement. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça, c'est pas Dieu qui le dit, mais c'est un proverbe. Et ils avaient la curiosité d'aller voir de droite et de gauche. Et là, ils se sont empoisonnés, intoxiqués. Il y avait des choses qui étaient toxiques. La curiosité, donc, des nouveautés douloureuses, le feu qui s'éteint un peu à peu, ou encore, et également, au chapitre 2, verset 21, on va aller un peu plus loin, il est dit cette parole: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner ceci et cela et raconter toutes sortes d'histoires. C'est le laisser aller dans l'église ou le laisser faire. Et il y a parfois des situations qui n'ont plus rien de voir avec le spirituel, qui sont devenues des contrefaçons du spirituel que l'on appelle le pseudo-spirituel, où finalement les choses sont acquises, on laisse faire n'importe qui et n'importe quoi. Et je peux vous dire que quelquefois, ça peut bouleverser, choquer, troubler les consciences. Et ça peut être aussi un danger. Parce qu'on ne va pas aller chercher à l'extérieur, mais on est au milieu de nous. Des gens qui se prennent la tête par orgueil spirituel et qui font n'importe quoi et qui disent n'importe quoi. Tu laisses faire, voilà ce que Dieu dit à cette église. Le laisser faire et le laisser aller. Si ce n'est encore une autre cause, c'est l'illusion d'être encore sans vrai, sans être vraiment. C'est Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 3. « Voici ce que dit celui qui a les esprits et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Tu passes pour être vivant et tu es mort. » Et est-ce que je dois le dire? Mais quelquefois, il y a des enfants de Dieu qui sont en apparence, mais qui ne le sont pas en profondeur. Où toute leur... finalement, leur vie spirituelle n'est que de l'artificiel et du superficiel. Le Seigneur nous a dit et nous a parlé que si le sarment reste attaché au cep, il portera du fruit. On est d'accord avec ça? Parce que ça, c'est l'essentiel. Vous savez, dans le ciel, tout ce que l'on peut faire sur la terre, ça n'aura plus cours, hein? Dans le ciel, il ne restera que de chacun d'entre nous le résultat ou la résultante de notre caractère chrétien dans l'image et la ressemblance de Christ. C'est ça l'important. Et puis, il y a également un autre écueil, c'est de se croire dedans alors qu'on est plus purement et simplement à côté. Apocalypse 3, 15. Et jusqu'au verset 17, il est dit ceci. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi, etc., etc. C'est de se croire dedans et finalement être à côté. C'est l'illusion, et ça s'appelle... vraiment l'orgueil spirituel. Je reviens à José. Il dit ceci, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» C'est l'héritage. Dieu a donné à vos pères, mais qu'est-ce que nous en faisons, nous, de l'héritage de nos pères? De ces hommes qui ont été fidèles, de ces hommes qui ont prêché la foi, qui ont prêché la puissance du Saint-Esprit, accompagnés de la guérison divine et tout cela. Qu'est-ce que nous en faisons quand on remplace les choses par des valeurs culturelles? Je n'ai rien contre. Mais un prédicateur, excusez-moi, moi j'ai été enseigné comme ça. Le pasteur qui m'a formé, mon maître de stage, m'a répété pendant des années, cette parole de Paul à Timothée, prêche l'évangile. Et moi, s'il y a une chose que je veux faire jusqu'au bout, c'est de prêcher l'évangile. Parce que c'est ça. C'est la folie de la prédication. Et c'est ça ce qui donne la foi et qui amène les gens au salut. C'est tout. Alors, négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Certes, des premières victoires avaient été prises par l'ensemble du peuple d'Israël, avant que les trois premiers soient placés, les seconds ensuite. Ça avait été pris par l'ensemble. Et vous savez, un mouvement, quand il commence à démarrer, hein, il y a une unité, hein. On se reconnaît dans l'esprit. Puis après, vous savez ce qui se passe? Il y a des divisions. Et c'est bien dommage. Parce que Dieu, avec les divisions, ne fait jamais rien. Alors, c'était pris par l'ensemble du peuple et des tribus. Mais il se faisait sentir une certaine démobilisation à un moment donné en Israël, une lassitude pour continuer le combat de la conquête, car il est resté encore 7 tribus, c'était pas rien, à aider à trouver leur héritage qui leur avait été échu par la promesse de Dieu. Et ceux qui étaient déjà installés, ils se disent bon, que les autres se débrouillent. Ça marche si bien comme ça. Ben oui, que les autres se débrouillent, tout simplement. Ceux qui avaient déjà n'avaient pas la conscience, finalement, qu'il y avait encore quelque chose à faire. Et ils n'avaient pas monté, ils n'étaient pas montés à leur esprit qu'il fallait aider les autres aussi à s'installer. Je voudrais vous dire, nous, nous sommes sauvés, et nous le croyons par la foi, mais il y en a tant autour de nous qui ne sont pas. Il y en a beaucoup plus, ils sont 7, nous on est 5. Alors si vous multipliez ça, c'est symbolique, hein. Mais c'est pour vous dire que le monde entier est encore. Alors on peut toujours dire, ben, dans notre petit ronronnement habituel, ben, c'est bien, c'est formidable, on chante des cantiques, ceci, cela. Hein, c'est sympathique hein, d'être entre nous. Hein. Mais attendez, le monde entier a besoin. Mais d'une manière ou d'une autre, nous devons nous porter, à chacun à sa manière, chacun selon les talents, selon les capacités que Dieu a données. Et on est en train de multiplier, nous avons des moyens formidables maintenant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre sans bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors allons-y, frères et sœurs. Et ne soyons retenus, ne soyons pas retenus par des préjugés, par finalement des choses qui ont eu leur cours en un temps et qui aujourd'hui peut-être sont obsolètes parce que bon, le monde a changé. La solidarité dans le peuple de Dieu est un devoir moral. Nous devons nous aider les uns les autres. Un devoir moral. Partager en est la règle. Et l'esprit qui préside, c'est l'amour fraternel. L'amour pour les âmes. L'amour entre nous. Une remarque au passage avant de terminer. Alors, il faut que nous allions jusqu'au bout de ce que nous avons commencé et terminons-le sans laisser les murailles de Jérusalem, je dis bien, sans laisser les murailles de Jérusalem inachevées aux brèches non réparées. Quand on fait quelque chose, il faut le finir, frères et sœurs. Ça, c'est, si nous sommes en entreprise, ce que nous avons été. Et quand on nous a confié des tâches ou des missions, je peux vous dire qu'il y avait un jour, une heure, où il fallait rendre. Autrement, c'est terminé. Hein. Eh bien, avec l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas nous dire, « Mais Seigneur, tu sais, j'ai eu beaucoup de problèmes. » Mais les problèmes, c'est lui qui les prend. Et c'est nous qui faisons le travail et il va nous faire faire des expériences à travers ça. Ça, c'était la mentalité, la devise de Néhémie. Oui. Jérusalem inachevée et les brèches non réparées. Quand on fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et le Seigneur va nous aider. Moi, je salue ce matin, finalement, mes frères et mes sœurs qui sont arrivés à un certain âge. Et qui ont été jusqu'au bout, qui ont fait jusqu'au bout, qui nous ont passé l'héritage pour que nous, maintenant, nous le continuions. Alors je les salue parce qu'ils n'ont pas décroché. Hein. Ils sont encore là. Eh bien, que vous soyez bénis. Mais maintenant, moi, je demande, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Vous savez, si on raisonne de cette manière, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Ça ne sera pas une bénédiction. Moi, j'ai toujours vu la bénédiction dans la consécration, dans la fidélité, dans un zèle qui procède du Saint-Esprit, et non pas du m'as-tu vu ou ceci comme ça, vous savez, par éclat, je fais des choses extraordinaires, et puis demain, il n'y a plus rien. On laisse ça à d'autres. Il y a 4 qualités à maintenir. C'est la foi, qui a la même racine en anglais que fidélité. La foi. La motivation permanente. Je demande tous les jours que, Seigneur, tu me donnes encore la grâce et la force d'être motivé. Parce que vous savez, ce n'est pas facile. Hein. Donne-moi cette motivation. La vision du but. Si je regarde toujours en arrière, là, je vais me prendre une porte. Hein. Si je regarde toujours le but, eh bien, j'aurai toujours finalement eh bien, Dieu qui va m'accompagner et me donner la lumière nécessaire, même dans les moments de ténèbres. Et puis, c'est la gloire de Dieu, finalement. Une église qui en perd la vue va tôt ou tard régresser, s'essouffler et s'arrêter d'être ce pourquoi Dieu l'a destinée. Et nous allons perdre le sens, finalement, de notre vocation. C'est ainsi que Josué fait établir un plan cadre de la volonté de Dieu. Excusez-moi, mais je voudrais quand même le lire succinctement. Au verset 4, il dit ceci. « Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. » Moi, je ne crois pas aux recettes toutes faites et aux méthodes bricolées, rabibochées pour faire marcher l'Église. Moi, je crois à une chose, à un plan qui est celui, le plan de Dieu avec la vision qu'il me renouvelle et qu'il renouvelle à chacun. C'est l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça, ça change tout. Ah, mais oui, mais il faut se tenir tranquille devant Dieu. Tranquille, pas la peine de s'énerver. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Seigneur, tu n'as pas dit dans le psaume 32, au chapitre 32 et au verset 8, « Je t'enseignerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conduirai et j'aurai les regards sur toi. » Eh oui, mais on a la bougeotte en ce moment. C'est sûr qu'on a la bougeotte. Il faut bouger parce que tout bouge. Si un jour, vous êtes derrière moi, un feu rouge, éventuellement, et que je n'ai pas vu le feu rouge passer au vert, ne klaxonnez pas. Parce que moi, ça me donne une réaction épidermique. Je ne bouge plus à ce moment-là. Vaut mieux éviter d'être derrière moi. Voilà, c'est un petit sourire parce que je vais bientôt arriver à la fin. Ouais, Josué avait établi un plan cadre parce que Dieu lui avait dit. Ce n'était pas des plans cadres des hommes, mais un plan. Et le résultat, finalement, est de connaître où chacun doit servir et doit s'épanouir. Parce que c'était pour chaque tribu. Et il y avait une tribu d'ici qui ne devait pas aller ici. C'était véritablement selon ce que Dieu avait déterminé. D'ailleurs, au verset 10, c'est la fin. « Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage entre le pays, du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion, sa part, sa place. » Et il y a pour chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, que ce soit dans le domaine matériel, on va le voir, que ce soit dans le domaine de la vie spirituelle, d'un service, il y a une place pour chacun. Prenez votre place, frères et sœurs. L'Église en a besoin. Moi, j'ai besoin de vous. Franchement, j'ai besoin de vous. On essaie de faire ce qu'on peut. Mais le grand âge arrive. Oh oui. Oui, oui. Non, mais ça paraît comme ça, mais... Ça paraît comme ça, mais... Il y en a qui ont du mal à croire. Enfin, à mon âge. Une place pour chacun et à chacun sa place, sans oublier ce rappel d'origine et de destination, d'origine et de destination, écoutez bien, car nous sommes son ouvrage, origine. Ayant été créés en Jésus-Christ, origine, pour de bonnes œuvres, le but que Dieu a préparé d'avance et la destination pour que nous les pratiquions. Dixit, l'apôtre Paul, Éphésiens, chapitre 2. D'accord ? Avec cette perspective glorieuse au fond du cœur de celui qui sert le Seigneur dans son œuvre, nous entendons Paul nous dire une dernière fois, soyez fermes et inébranlables, travaillons de mieux en mieux, pas de moins en moins ou de moindre qualité, en disant Seigneur, toi servi le dernier, mais travaillons de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et on l'a vu dans l'étude de l'Apocalypse, il nous est dit qu'en ce qui concerne les justes, ceux qui meurent heureux, ceux qui meurent dans le Seigneur, on ne va pas mourir tout de suite, mais ceux qui meurent dans le Seigneur, leurs œuvres les suivent, les précèdent. C'est formidable ça. Ça nous semble quelquefois dérisoire, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien pour toi. Ben, on verra de l'autre côté si on le fait avec cœur, si on le fait avec consécration, avec fidélité, avec amour et pour la gloire de Dieu. La conclusion. Ne soyons pas de ceux qui ressemblent dans la parabole du maître de la vigne, Matthieu chapitre 20, et qui sont à attendre. Le texte biblique, à attendre, assis sur la place publique, sans rien faire. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Et que nous puissions le servir avec joie de tout notre cœur. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Tu nous bénis, Seigneur, dans cette parole. Accorde-nous, Seigneur, tout ce qui nous est nécessaire. Et nous voulons te dire, Seigneur, toute l'Église ensemble, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen.